vue d'ensemble de l'actualité.
Il existe déjà des possibilités là, d'agir contre l'intimidation, puis c'est inacceptable ce qui est arrivé à la résidence du Dr Arruda. C'est inacceptable les menaces à l'égard de la vice-première ministre. De ce côté-là, il faut être très, très clair là, qu'on tolère pas ça.
Très vil PM.
Alors, c'était François Legault hier lors de son point de presse là, qui faisait référence au fait que qu'est-ce que tu veux? C'est devenu quasiment la norme. T'es en politique, t'as un peu de visibilité. Tu fais l'objet de menaces. Puis honnêtement, faut pas accepter ça. Faut pas accepter que ça devienne la nouvelle normalité. On va parler dans un instant à un ancien garde du corps de premier ministre. Mais d'abord, on va aller rejoindre Hugo Fournier, lieutenant à la Sûreté du Québec. Bonjour, Hugo.
Bon après-midi.
Parce que vous gardez le compte. Hein, vous faites le compte des signalements pour propos menaçants envers des élus de l'Assemblée. Et ça a beaucoup augmenté, là.
Oui, tout à fait. Ça a beaucoup augmenté. Là, dernièrement, là, à la fin septembre, on avait sorti quelques statistiques pour démontrer l'augmentation depuis le début de la pandémie. Là, on parlait de à peu près 2000 signalements depuis le début de la pandémie concernant des menaces sur les réseaux sociaux. Et spécialement pour les élus de l'Assemblée nationale, on parlait là, de 300 en 2020 pour comparativement à 53 en 2019. Fait que c'est énorme l'augmentation du nombre de menaces.
Quand on parle de menaces, là, vous me dites 300 signalements de menaces contre des élus de l'Assemblée nationale, ça ressemble à quoi, là?
Ben, en fait, un signalement, c'est pas nécessairement toujours, ça se traduit pas toujours en accusation criminelle, parce que parfois le signalement peut être seulement pour des propos qui sont malveillants ou encore des propos mal polis, si on veut. Mm. Par contre, nous, on intervient lorsqu'il s'agit d'infractions de nature criminelle, c'est-à-dire au sens du code criminel, ce sont des gens qui ont proféré des menaces, entre autres de voies de fait ou des menaces de mort, entre autres. Et c'est là qu'on intervient. Et encore, là, dans les derniers jours, dernières semaines, il y en a certains qui ont été médiatisés, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas été. On procède à l'arrestation de plusieurs personnes.
Là. OK, donc vous avez eu 330 signalements contre des élus de l'Assemblée. Donc ça, c'est des gens, mettons, qui vont porter à votre attention des menaces, des propos, etc., sur les réseaux sociaux et tout le reste. Et là, vous évaluez la nature du signalement. Et là, vous décidez, ouais, ça pourrait être criminel, et à ce moment-là, vous intervenez. Exact?
Oui, lorsqu'on parle de propos clairs, de menaces de mort, de s'en prendre physiquement à une personne, c'est là qu'on va intervenir. On va faire enquête, évidemment, on va tenter de retrouver la personne qui se trouve derrière le clavier, et on va procéder à son arrestation. Et dans la plupart des cas, sur les réseaux sociaux, les gens s'affichent avec leur vrai profil, leur vrai nom. Mm. Donc, pour nous, là, c'est très facile de localiser ces personnes-là puis de procéder à leur arrestation. Une fois de plus, là, on le répète, là, les gens, souvent, ce qu'ils nous disent lorsqu'ils se font arrêter, je voulais pas vraiment dire ça a dépassé ma pensée. Souvent, là, on parle de blagues, mais lorsqu'on lit leurs propos, c'est des propos très violents, très, très clairs.
Oui. Puis quand ils réagissent comme ça, votre réaction, c'est pas de dire, oh, OK, d'abord, tu reconnais ton erreur, oui, je suis allé trop loin, OK, d'abord, on va te laisser tranquille. Non. Il faut qu'ils vivent avec les conséquences de leurs actes, là, hein?
Oui, le dossier est déposé au DPCP là, pour étude, là, mais évidemment, il peut avoir arrestation, comparution, détention, tout ce qui s'ensuit avec les processus judiciaires.
Tout à l'heure, vous aviez bien dit 300. Hein? Pour 2020, 300, c'est bien ça?
C'est ça, 300 signalements pour des élus.
Ça, mais seulement des élus de l'Assemblée nationale, là, ça n'inclut pas les menaces contre Valérie Plante, par exemple, là, hein?
Non, ça ne l'inclut pas. Okay. Vous savez, nous, la sortie, c'est sur notre territoire, en fait.
D'accord. Est-ce que ces 300 signalements, qui sont apparus sur les réseaux sociaux ou il y en a une partie réseaux sociaux et une partie ailleurs?
C'est propos menaçants sur les réseaux sociaux visant les élus. Donc, ce sont des propos qui nous ont été signalés. Ça ne s'est pas traduit nécessairement en 300 arrestations, évidemment.
Non.
Mais je n'ai pas les chiffres à l'appui, mais c'est beaucoup de personnes. Là. À chaque semaine, il y en a qui se font arrêter. Donc, nous, on répète, c'est pas la première fois qu'on en parle, même à votre émission, on le répète, c'est criminel de procéder à faire des menaces sur les réseaux sociaux.
Bon, mais c'est bien de le rappeler. Hugo Fournier, lieutenant à la Sûreté du Québec, merci.
Merci à vous.
Là, on va aller rejoindre Luc Hébert. C'est un ancien garde du corps de premier ministre qui est chargé de cours en criminologie à l'Université de Montréal. Bonjour, Luc Hébert.
Bonjour, M. Drainville.
Vous regardez ça, vous, comme ancien garde du corps, puis vous devez vous dire, hey boy, pour les gardes du corps actuels, ça complexifie d'autant la tâche?
Oui, je regarde ça aussi avec des yeux de criminologue, hein, évidemment, comme phénomène un peu plus sociétal.
Oui.
Ben, effectivement, pour sans répéter le propos de votre précédent invité, là, évidemment, c'est un travail qui doit être... garde du corps, vous savez, c'est la dernière ligne de défense, là. Tout se passe, le gros du travail, ça passe avant, autrement dit, les enquêtes dont on faisait référence, qui doivent être, chaque menace doit être enquêtée pour en voir la véracité. Et puis, selon ce qui est constaté, mm-hmm. il y a une évaluation de menace qui est faite, puis là, ben, la sécurité est ajustée en fonction de...
Ça veut dire quoi, ça, la sécurité est ajustée? Ça veut dire quoi? On ben, va rajouter...
On va changer les niveaux de sécurité. On peut... Il y a une sécurité de base en temps, qu'on dirait, en temps de normal, quand il n'y a pas de menaces qui sortent d'un contexte normal, comme c'est actuellement un contexte anormal. Est-ce que ça va être le nouveau contexte? On ne sait pas, mais actuellement, c'est, donc il y a sûrement eu des augmentations de sécurité, puis il va probablement en avoir d'autres. D'augmentation de la façon que la sécurité va être faite au niveau des élus.
Donc ça veut dire quoi? Attendez un petit peu, M. Hébert. On rajoute quoi, là? Ouais. On rajoute on en met un deuxième garde du corps, on en met un troisième garde du corps.
Bon, évidemment, ça peut jouer au niveau de des protections immédiates, là, le nombre de gardes du corps qui vont protéger. Il y a différents degrés à l'intérieur de ça. Là, on peut passer, là, généralement, comme un premier ministre, là, il y en a un nombre minimal, là, c'est entre deux et quatre, d'habitude, là. Donc, il y en a probablement plus, les prévisites, les déplacements, tout est vérifié, on va augmenter là aussi. Ça peut aussi vouloir dire une présence plus solide, plus musclée aux résidences, au lieu où le premier ministre va se trouver.
Une présence, vous avez dit une présence plus musclée à la résidence?
Bien, ça pourrait être ça, oui. Évidemment, on voit il y a des menaces qui sont faites aux résidences des personnes. Donc c'est pas seulement les lieux publics visités, le bureau, les différents bureaux. Donc, effectivement, les résidences peuvent subir aussi une augmentation de la présence sécuritaire là.
Oui, puis je peux témoigner aussi, là. Moi, je veux dire, j'ai déjà été pris, mettons, dans un débat assez intense. Ça, oui, ben oui, puis ils vont installer, par exemple, à un moment donné, ils te rencontrent, puis ils disent, garde, on va installer un système de sécurité beaucoup plus perfectionné chez vous. Fait que là, ils rencontrent ta femme, puis là, ils expliquent, garde, on va t'installer un système de caméra, détection de mouvement.
C'est le genre de mesure de plus qui peut être faite par rapport à ce qui existe en temps de paix, en temps normal, il n'y a pas de menace particulière, un contexte volatile comme celui qu'on vit actuellement. Donc, ça peut aller de différentes mesures. Là. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus technologique. Les technologies permettent des mesures encore plus... des caméras, des caméras, maintenant, ça peut être très, très petit. On peut même utiliser ultimement les drones. Les moyens technologiques sont vraiment très avancés. Évidemment, il va y avoir, comme vous l'avez souligné, il va y avoir une formation qui va être faite souvent, qui ne sont pas habitués à ça, la famille, qui est souvent traînée là-dedans, dans cette situation-là. Donc, il y a des mesures de base, l'épouse, les enfants parfois, puis aussi, c'est ça. C'est le genre de situation. Pour les élus, ceux qui n'ont pas la protection de la Sûreté du Québec, c'est la même chose. Ça peut... Certains ministres plus visés peuvent justement avoir un appui de la Sûreté du Québec qui va venir s'ajouter à la sécurité des concepts spéciaux du gouvernement. Vous savez, c'est une grosse machine qui peut s'ajuster assez facilement aux différents contextes, là, probablement qui sont actuellement à des niveaux très élevés de sécurité.
De vigilance. Luc Hébert, donc ancien garde du corps de premier ministre, chargé de cours en criminologie à l'Université de Montréal. Merci.
Bienvenue, monsieur. Bonsoir. Bonjour.
Bonjour. Luc.
Oui, Bernard.
Bon, évidemment, toi, t'as côtoyé un premier ministre, tu sais c'est quoi des gardes du corps, là?
Oui, comme l'expliquait M. Fournier, c'est Fournier son nom, n'est-ce
pas? Le premier, c'était Fournier, le deuxième, M. Hébert.
M. Hébert, excuse-moi. Mm-hmm. Comme l'expliquait M. Hébert, le garde du corps, c'est la dernière ligne. La sécurité, quand on parle d'un premier ministre, c'est ce qui vient avant. c'est-à-dire sécuriser les lieux, connaître les entrées, les sorties, prendre le contrôle, tout ça. À la fin, il y a un groupe, une boîte, qu'on appelle ça la boîte protectrice du premier ministre, quand il va de bonne foule, mais ils sont toujours au moins deux. Même quand il est chez eux, ils vont être à la porte ou dans des locaux spéciaux. Mais là, la vraie question est la suivante. Veux-tu me dire comment ça se fait que les gens sont rendus dans des menaces de mort comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la société? Est-ce que c'est l'effet Trump? Est-ce que c'est l'effet Trump combiné au stress de la pandémie? Est-ce que c'est la polarisation des débats? Je ne sais pas.
Mais... Ah oui, Luc. Les maudits réseaux sociaux, là, ça craint que le monde, là. Ils vivent dans un univers parallèle. Ils oublient que c'est des êtres humains. Puis là, ils disent toutes les maudites niaiseries qui leur passent par la tête, sans filtre. Il y en a qui tweetent le soir, mon Dieu, ils sont dans un état second. Tu sais pas s'ils ont pris de la dope ou s'ils sont sous l'alcool à côté serré ou ils ont pris des pilules ou je sais pas quoi d'autre. Et puis là, ils disent toutes les maudites niaiseries qui leur passent par la tête. Mais
t'en as eu, toi, des menaces de mort?
Oui, j'en ai eu.
Moi, j'en ai eu à au moins trois reprises, dont une a donné lieu à une interpellation de la police. Des gens qui... Tu sais pas exactement pourquoi, là, puis tout à coup, ils s'en prennent à toi. Puis tu vois, si je te rencontre, tu te relèveras pas mon tatapom. Tu sais, c'est des affaires comme ça. Et là, évidemment, on parle de la sécurité du premier ministre. Par définition, c'est la plus, disons, la plus rigoureuse, la plus serrée qu'on puisse imaginer. Mais Valérie Plante a été victime de menaces de mort.
Ben oui.
Madame Guilbeault a été victime de menaces de mort. À Ottawa, il y a eu des victimes de menaces de mort. Alors, je ne sais pas, est-ce que les services de renseignement de la police fait complètement son travail? Est-ce que des illuminés comme les gens de QAnon deviennent un danger ici aussi?
Ah oui.
Est-ce
ah
que
oui.
leurs équivalents québécois sont vraiment dangereux? Enfin, on
moi, je vais te dire, je suis revenu du Mexique. Au Mexique, là, je t'ai raconté ça à un moment donné. Au Mexique, il faut que tu sois toujours sur tes gardes. Surtout quand t'es un blanc, un occidental, tu sais, bon, ils savent.
Que possiblement, t'aurais de l'argent dans tes
poches. Ben oui. D'ailleurs, il faut toujours que tu traînes de l'argent. Quand t'es au Mexique, il faut toujours que tu traînes de l'argent dans tes poches. Si jamais il y en a un qui arrive à côté de toi avec un gun, faut que tu sois capable d'y donner de quoi. Fait qu'il faut toujours, bon. Moi, je suis revenu du Mexique dans un état d'hypervigilance que j'ai jamais complètement perdu.
C'est vrai? Une sorte de PTSD, une sorte de syndrome, je
te raconterai, j'ai eu quelques épisodes assez rock'n'roll, là, dont une fois, où à un moment donné, on est vraiment passé proche. Mais moi, je marche dans la rue maintenant, puis je suis constamment aux aguets. Là, je regarde derrière moi, je regarde de côté.
C'est intéressant parce que les militaires canadiens qui ont combattu en Afghanistan, tu sais qu'il y en a des centaines qui sont revenus avec le syndrome post-traumatique. La principale manifestation de ce syndrome-là, c'est l'hypervigilance. Ils finissent par en devenir fous. Ils regardent à droite, regardent derrière, trouvent toujours une place spéciale dans un restaurant pour avoir le dos au mur.
Je suis pas rendu là. J'espère que je m'y rendrai pas, mais une certaine vigilance. Luc, on s'arrête là-dessus, on se reparle un peu plus tard.
À tantôt.
On s'en va à la pause parce qu'au retour, on va parler de cet astéroïde. Parce que ils ont réussi à poser la sonde sur l'astéroïde. C'est assez formidable. Un astéroïde. Oui, je le sais. Un astéroïde. Après la pause.